Le journal présenté par Émilie Moumentaler.
Bonsoir, les producteurs de damascène s'affairent dans les vergers. La semaine est propice pour la récolte des fruits qui serviront à fabriquer la goutte. La récolte est assez disparate d'un endroit à l'autre. Nous verrons ce qu'il en est du côté de Plujouze. Une meute de loups a été découverte le mois passé dans les montagnes neuchâteloises. Il s'agit de la sixième documentée dans l'arc jurassien franco-suisse. Six louveteaux ont vu le jour. Les équipes régionales de Première Ligue de football rechaussent les crampons en cette fin de semaine. Parmi elles, le FC Courtetel qui entend continuer à jouer les premiers rôles. Stabilité et régionalisme sont de mise chez les Verts. Météo, il fera beau et très chaud durant la semaine à venir. Cela s'amorce demain avec un ciel bien ensoleillé. Il fera jusqu'à 28 degrés en plaine, 24 à 1000 mètres. C'est une semaine décisive pour les producteurs et distillateurs de damascène. Les fruits sont mûrs et la météo cette semaine se prête particulièrement à la récolte des damassons. La météo a été plutôt variée depuis le printemps avec des vagues de chaleur et des périodes de pluie tout en évitant le gel tardif. Alors 2025 se présente-t-elle comme une bonne année pour la petite prune star du Jura? Jérémy Pignard est allé cet après-midi dans le verger d'un petit producteur ajoulot de damascène AOP à Plujouze.
Depuis le début de la matinée, Lionel Richard et quelques bras venus l'aider passent son temps à genoux pour récolter les damassons. Image typique de la saison, les grands filets sont posés sous les arbres. Il n'y a plus qu'à ramasser sans oublier de trier.
Une fois que les filets sont mis, c'est quand même nettement plus simple. Puis on a eu pas mal de chance, on les a mis puis ça commence à tomber quoi. Enfin, même un peu un tri définitif puisqu'on les prend tout en main, donc on essaye de faire que celles qui sont dans le seau, ce soit celles qu'on peut mettre en tonneau après, quoi. Comme ça, on est quitte de faire deux fois le travail.
Et dans ces vergers de Plujouze cette année, le tri est assez vite fait. La petite prune jurassienne est particulièrement belle.
Ben, elles n'ont pas de défauts, pas de pourriture. Après, ce qu'on a de la chance, c'est qu'il ne fait pas encore trop chaud. Quand elles sont sur le filet pendant toute la journée et qu'il y a le soleil qui tape dessus, elles ont tendance à un peu cuire, ce qui fait que elles ont le goût un peu de confiture ou de tarte. Les sucres sont un peu altérés quoi. Mais là, comme il fait frais, comme on l'a déjà passé une fois ce matin, elles sont vraiment en parfait état.
Pour se faire une idée de la qualité finale de la damascène, il faut goûter. Le fruit, là aussi, est plutôt prometteur.
Il est déjà bien mûr. Et ça, c'est le grand avantage avec le damascénier et les damassons, c'est que il tombe à point quand il est mûr. C'est quand même très très aromatique. Ils sont quand même très sucrés, ce qui va évidemment permettre de transformer comme une bonne partie en alcool. Et puis voilà, c'est ça qui fait la magie de ce fruit.
Un bon point pour la qualité, pour les quantités difficiles à estimer cette année, c'est assez variable selon les endroits, constate Lionel Richard.
C'est un peu une année moyenne, c'est très disparate. Alors justement, j'ai aussi des vergers à Villars, et puis là, il y en a deux, trois, mais vraiment pas de quoi mettre les filets récoltés. Puis ici à Plujouze, on voit aussi en regardant les vergers voisins, il y a tout le monde qui est un peu en train de ramasser, puis il y en a quand même passablement. Et puis là, il en reste quand même un peu, et puis c'est déjà bien tombé. Pour un petit producteur comme moi, ça va faire un peu des stocks, c'est cool.
Lionel Richard a annoncé plus ou moins une tonne de fruits auprès de l'interprofession de la damascène, ce qui reste loin de son record de 3 tonnes récoltées en 2018.
C'était un sujet de Jérémy Pignard sur la récolte des damassons qui bat son plein en ce moment dans le Jura. Une randonnée à cheval de 13 jours de Genève jusqu'au marché Concours. C'est le défi que se sont lancés deux jeunes genevoises de 16 et 17 ans. Alicia Traconia et Aurélie Willimann ont quitté leur domicile le samedi 26 juillet pour rallier Seigne-Légier ce vendredi. Avec Krakan et Caramel, leurs chevaux Franche-Montagne, les deux amies vont parcourir 240 km à travers la Suisse romande et elles sont impatientes d'atteindre leur destination finale, Alicia Traconia.
Depuis le début, on a hâte d'y être. C'est vraiment une fête géniale parce qu'il y a une ambiance géniale. C'est pour mettre en avant... par le marché concours et c'est vraiment génial.
Au marché concours, vous allez participer à certaines activités. Quel sera votre programme ?
On fera des courses le samedi et dimanche, donc les courses campagnardes qui sont les courses accrues. Alors à voir, suivant l'état de nos chevaux et aussi le nôtre, on ne va pas prendre de risques de chute ou de blessure. Donc on avisera, mais normalement, on devrait faire chacune une course avec un cheval durant le week-end.
Alicia Traconiat est au téléphone de Nicolas Meusy. Les deux Genevoises arriveront à Seignelay-Légier vendredi soir pour l'ouverture du marché concours. Une meute de loups dans le canton de Neuchâtel. Les gardes-faunes du canton ont constaté sa présence dans le courant du mois de juillet. Une louve allaitante a d'abord été photographiée dans la région de la Brévine. 4 puis 6 petits ont ensuite été découverts. Pour le moment, les louveteaux ne se déplacent pas beaucoup et n'accompagnent pas encore leurs parents. Il y avait déjà des loups dans la région avant, mais c'est la première fois qu'ils font des petits, ce qui confirme que le loup se plaît dans la région. Christophe Noël, chef du service cantonal neuchâtelois de la faune, des forêts et de la nature.
Ce que ça montre, c'est que maintenant on a une progression claire, hein, du loup vers l'est de l'arc jurassien. Et puis bon, ça montre que les conditions dans notre région permettent à une meute de se développer. On pense que dans le cas de cette meute, donc, qu'elle se nourrit essentiellement de chevreuils.
Les gens, ils sont inquiets quand ils entendent ça. Ça ne veut pas forcément dire de nouvelles attaques sur les troupeaux.
Alors évidemment, ce n'est pas exclu, hein. Donc maintenant, on fait le constat que la population se renforce dans notre canton. Pour l'instant, la situation est plutôt calme chez nous, mais il n'est pas exclu qu'on ait une recrudescence des dommages, comme on l'a eu d'ailleurs les deux années précédentes.
Six louveteaux, c'est beaucoup pour une meute.
On va dire que c'est un nombre moyen à important. En général, on dit que c'est entre 3 et 8 les constats qu'on fait en Suisse au niveau des naissances.
Depuis les premières observations de loups signalées en 2022, le canton de Neuchâtel a mis en place un plan de mesures qui porte sur la protection des troupeaux, le suivi, la formation, la sensibilisation et les mesures de régulation. L'hôtellerie dans la région Jura et Trois-Lacs se porte bien. Entre le 1er avril et le 30 juin dernier, près de 260 000 nuitées ont été enregistrées, soit une augmentation de 1,8% par rapport à la même période l'an dernier. Une hausse portée par le marché suisse qui a augmenté de 5,2%, compensant ainsi la diminution des nuitées de touristes étrangers. Les voyageurs helvétiques représentent en effet pas moins de 70% des nuitées, indique aujourd'hui Jura et Trois-Lacs dans un communiqué. L'organisation met en lumière deux facteurs majeurs, à savoir le calendrier des vacances scolaires et les conditions météorologiques. Accueillir le temps d'une année un adolescent de l'autre bout du monde. C'est ce que propose le programme interculturel AFS qui a lancé récemment un appel pour trouver des familles d'accueil en Suisse. En août l'année dernière, une famille jurassienne a tenté l'aventure et a ouvert sa maison à une Québécoise qui a quitté Delémont fin juillet. Zoé Vespi, son mari et leurs trois enfants ont donc accueilli l'adolescente avec beaucoup d'envie mais aussi quelques appréhensions.
On ne sait jamais comment ça va se passer. C'est vraiment des individus qui se rencontrent et puis on ne sait pas si ça va accrocher, si ça va matcher ou pas. Et puis ça demande de toute façon un petit temps d'adaptation, un temps petit ou des fois un peu plus long. En plus, la relation, elle évolue. Donc même si on a assez vite pris nos marques avec elle et elle aussi, on a remarqué qu'il y a eu des paliers dans la relation, dans comment on était plus proche ou comment elle aussi, elle évoluait dans ce nouveau milieu. Donc c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, c'est pas acquis. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, ça demande de rester vif à l'écoute de l'autre.
Mais ça bouscule aussi dans ses habitudes, dans son quotidien, dans sa routine.
Ah bah ça c'est sûr, oui. Parce que justement, vous avez quelqu'un qui est là 24 heures sur 24, parfois de bonne humeur, parfois pas de bonne humeur, parfois nous on est de bonne humeur, parfois non, ou on n'a pas le temps. Ou... Pour moi, tous ces moments... C'est du bonus parce que c'est une expérience supplémentaire que j'ai vécue, en fait. Donc ça me nourrit.
Les propos recueillis par Nancy Chapuis. Un échange très amical et ouvert. Karine Keller-Souter s'est montrée optimiste auprès du correspondant de la SRF après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio cet après-midi à Washington. La présidente de la Confédération était accompagnée par le ministre de l'Économie Guy Parmelin pour évoquer un accord sur les droits de douane. Donald Trump les a fixés à 39% pour les biens suisses vendredi dernier. Une rencontre avec le président républicain n'était pour l'heure pas au programme. La loi sur l'identité électronique ne donne pas assez de garanties, estiment les opposants. Le peuple est appelé à voter sur ce nouveau concept DID le 28 septembre. Le comité référendaire a présenté ses arguments aujourd'hui à Berne. Il est composé d'anciens membres du Parti Pirate, de Jeunes UDC, de l'Union démocratique fédérale et des Amis de la Constitution. Les opposants trouvent que les données des utilisateurs ne sont pas assez protégées. Les grandes entreprises de la tech pourraient les exploiter à des fins commerciales. Et la loi manque de transparence. Elle prévoit de publier le code source de l'infrastructure EID, mais avec une exception. C'est ce que souligne Jonas Sulzer, membre du comité référendaire.
Si je veux demander une EID, je veux faire ça par Internet. La loi prévoit une vérification automatique. Moi, je vais devoir scanner mon visage, faire une vidéo de mon visage avec mon téléphone et également de mon passeport ou ma carte d'identité physique. Justement, cette partie-là qui déjà utilise une technologie où on n'a pas de garantie vraiment sur la sécurité, parce que est-ce que la technologie pour faire des fakes de ce genre de vidéos, c'est ce qui est possible avec des algorithmes de machine learning, d'IA, on n'a jamais une garantie. Et justement, cette partie-là est gardée confidentielle et on n'a donc pas de moyen de la vérifier à quel point elle est sécurisée ou non.
La nouvelle loi prévoit une identité électronique facultative et gérée par la Confédération. Le peuple se prononce le 28 septembre. Le Festival de Locarno ouvre ses portes ce soir pour sa 78e édition. Les actrices Emma Thompson et Lucy Liu sont invitées d'honneur, ainsi que Jackie Chan. 18 films sont en compétition pour les Léopards d'Or. Parmi eux, Le Lac, du réalisateur neuchâtelois Fabrice Aragno. Un film qui a beaucoup ému le directeur artistique du Festival de Locarno, Gianna Nazzaro.
C'est l'histoire d'une couple qui se promène en bateau sur le lac Léman. Et c'est un film qui réfléchit à ce que c'est un couple, c'est ce que c'est l'amour. C'est un film comme une poésie romantique de Novalis, à mon avis. C'est comme une musique de Mozart. C'est un véritable coup de maître d'un grand talent visuel, d'un grand poète de l'image cinématographique.
Cette édition du Festival de Locarno prévoit aussi de projeter pour la première fois une série sur la Piazza Grande de Deal du réalisateur lausannois Jean-Stéphane Bron. La manifestation se tient jusqu'au 16 août au Tessin. Le plus gros incendie de l'été en France fait rage dans le sud du pays. Il a déjà dévasté plus de 16 000 hectares de végétation en 24 heures dans l'Aude. Le feu a fait un mort et 13 blessés. Face à l'ampleur du sinistre, l'Union européenne s'est dite prête à mobiliser des moyens si nécessaire. La situation est toujours défavorable en raison de la sécheresse, de la chaleur et du vent fort qui dévie l'incendie vers des zones boisées assez inaccessibles, selon une représentante locale de l'État français. Des discussions utiles et constructives, c'est le regard que porte le Kremlin sur l'entretien entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. La rencontre de près de 3 heures s'est achevée cet après-midi à Moscou, d'après les agences de presse russes, à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine.
Et à l'écoute de RFJ, il est 18h14.
RFJ Sport.
C'est reparti pour les footballeurs de Première Ligue de notre région. Le FC Courtaitel, le FC Basse-Cour et les SR Delémont reprennent le championnat en cette fin de semaine. Tous les jours, nous vous présenterons les ambitions de chaque club. Aujourd'hui, place au FCC qui a connu un été relativement calme. Les joueurs majeurs de l'équipe Vadès sont restés fidèles. 4 départs et 5 arrivées ont été enregistrés. Courtaitel avait terminé le dernier exercice au 5e rang. Les Verts entendent bien continuer à jouer les premiers rôles. Leur directeur sportif, Silvio Rossi.
Effectivement, au niveau comptable, peut-être le premier tour n'était pas ce qu'on attendait, mais encore une fois, je pense dans le contenu, clairement, on n'était pas dans le faux. On a fait un grand deuxième tour. On a vu qu'il a manqué un petit peu pour arriver à accrocher ce podium, peut-être voire plus. Donc ça joue vraiment à des détails. Mais on est assez confiant en stabilisant l'équipe. On a une ossature qui est bonne. On doit quand même faire attention, hein, de ne pas tomber dans la facilité. Mais je pense qu'effectivement, on sera toujours ambitieux de continuer à progresser. On verra le début de championnat. Ben, on reçoit un néo-promu Bouox, puis après, il y aura quand même Soleure, Langenthal et les SRD. Donc, c'est des équipes qui probablement joueront aussi le haut de classement. Donc ça donnera peut-être une bonne indication sur le niveau, en sachant aussi que la préparation elle est estivale, elle est quand même toujours un petit peu compliquée.
Mais l'an dernier, vous avez touché du bout des doigts le podium, on peut dire ça comme ça, ça donne envie d'y grimper, on imagine.
Ouais, alors effectivement, hein, je crois que qu'on est sportif, ou en tout cas les joueurs, le staff en lui-même, c'est clair que je pense qu'ils ont ça dans un coin de la tête, parce qu'on était effectivement proches. Hein, il faut qu'on reste ambitieux, parce qu'il y a un bon engouement au FC Courtaitel, et puis si on veut promouvoir et le club, eh ben, c'est toujours plutôt intéressant. Donc voilà, l'objectif, ben, voilà, un top 5 serait bien.
Sylvie Rosset répondait à Michel Léoni. Retrouvez les mouvements du mercato des Verts sur rfj.ch. Le FC Courtaitel lancera sa saison dimanche avec la réception du néo-promu Bouox. Et demain, place à la présentation du FC Basse-Cour dans nos journaux de 12h15 et de 18h. Merci pour votre écoute et belle soirée.
RFJ Sport.